Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Une rencontre sur la transmission d'entreprise. C'est là que j'ai rencontré notre invité de ce soir. Lui venait témoigner de son expérience quand son chef l'a approché un jour pour lui dire « Puis toi, tu veux reprendre ?» Une année plus tard, c'était fait à deux, parce qu'il a dit oui, oui mais pas tout seul. Je suis allé le revoir en début de cette semaine. On entre dans son entreprise de construction via une grande entrée, il y a des machines, des matières premières et une zone administrative. J'entre chez Seret SA à Courant de l'Ain. À l'entrée, on voit des casquets, des vestes de sécurité et des babouches, parce qu'on entre souvent avec des chaussures sales ici, visiblement. Sur le mur, des constructions assumées par l'entreprise, immeubles, villas, cuisine d'hôpital. Une photo d'anniversaire aussi, avec les collaborateurs, parce qu'ils sont importants. Lui est de dos, assis à un bureau. Au téléphone, il discute d'un appel d'offres. Le maçon est devenu un peu négociateur. Mais il est resté lui-même, franc, transparent, honnête, fonceur. Bonsoir Jérôme Guiziguer.
Bonsoir.
On va parler de votre entreprise, Seret SA, de cette transmission express de votre co-direction. Avant ça, un mot sur vous. Comment vous êtes arrivé dans le métier de maçon ?
Je pense avant toute chose, j'ai toujours aimé faire quelque chose de mes mains. Je suis avant tout un manuel, j'aimais travailler à l'extérieur. Et j'ai aussi mon papa qui est dans la branche. Et puis je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours été un petit peu... drillé par ce métier.
C'est pas lui qui a poussé?
Pas du tout, au contraire. Non, justement, lui, il pensait plutôt à ce que je fasse plutôt un autre métier. Il me disait, mais tu sais, c'est quand même pas facile, c'est difficile ce métier. Et puis, j'ai quand même fait d'autres stages, j'ai quand même essayé autre chose. Et puis finalement, j'en suis vraiment revenu à ce métier qui est aujourd'hui ma vraie passion. Quoi.
J'ai besoin de faire quelque chose de mes mains. Vous avez dit, le fait de voir le travail, de voir quelque chose se bâtir, c'est important pour vous?
Oui, clairement. J'entends, c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand vous voyez ce que vous avez bâti, enfin construit, c'est vraiment valorisant. Et puis, je pense que c'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus apporté dans mon métier. Quoi.
Vous avez donc fait votre apprentissage. Dans l'entreprise actuelle, Seret SA, vous y êtes arrivé il y a 10 ans. Comment se sont passés vos débuts?
Un petit peu compliqué. Non, c'était surtout en fait que voilà, Monsieur Seret avait toujours l'envie d'un petit peu tester ses nouveaux collaborateurs. Alors il avait un peu une équipe phare qui était là pour tester les nouveaux collaborateurs. Et puis je suis passé par là un peu comme tout le monde. Et puis puis finalement, j'ai, on va dire, survécu.
Le début à la dure, quoi.
Ouais, c'était à la dure. C'était vraiment un peu, c'était une autre époque. Et puis, mais finalement, je pense que c'était un mal pour un bien. Et puis, ça a forgé mon caractère. Et puis, c'est ce qui fait que je suis aussi aujourd'hui. Quoi.
Aujourd'hui, les nouveaux collaborateurs, ils passent aussi par une période à la dure.
Non, c'est vraiment différent. Ça a changé, ouais, clairement.
Ouais. Ouais. On va discuter un petit peu de cette transmission d'entreprise, mais juste pour dire deux mots de celui qui l'a dirigé pendant de longues années, René Seret. Comment vous le décririez?
C'est un personnage, Monsieur Seret. C'est avant tout, c'est un vrai entrepreneur, clairement. C'est un fonceur. C'est quelqu'un qui a du bagou. Puis vraiment, on a un énorme respect pour ce monsieur. Quoi.
Ben, racontez-nous la première fois qu'il a évoqué avec vous la possibilité de reprendre l'entreprise.
Ben, en fait, j'étais sur le chantier, sur un de mes chantiers. Et puis il a débarqué pour voir un peu comme toujours comment ça avançait, comment ça allait. Et puis il m'a un peu lancé ça un peu comme ça. Il me dit. Puis vous, ça vous dirait pas de reprendre? j'étais étonné, mais en même temps, c'était vraiment une fierté. Ouais, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, quoi. Et puis j'ai dit ouais, mais enfin j'ai dit oui, mais il faut que je réfléchisse.
Quand même une petite semaine au minimum.
C'était ça, hein, ouais. C'était une semaine, mais le lendemain il était déjà là.
Alors.
C'est bon, vous avez trouvé.
Comment ça s'est passé ensuite?
Ben ensuite, on s'est un petit peu. J'ai dit à M. Seret, j'ai dit oui, j'ai envie, mais pas tout seul, quoi, clairement. Mmh. Et après,
pourquoi pas tout seul?
Vous voyez, c'est quand même, voilà, vous avez quand même 35 collaborateurs, vous commencez un petit peu à mesurer les poids, et puis je me suis dit, je peux le faire, mais il faudra avoir quelqu'un qui puisse m'appuyer, et puis je pense que c'est ce qui serait la meilleure solution. Quoi.
Celui qui est avec vous, c'est Jonas Beuchat, on l'entendra tout à l'heure d'ailleurs dans le reportage. Si on revient juste sur cette période de transition qui a été quand même relativement courte, c'était quoi le plus compliqué?
Je dirais le plus compliqué, c'était que ça se passe pour le mieux aussi avec la famille de M. Seret. Pour nous, c'était vraiment très important qu'on puisse vraiment faire passer le message et puis que ça se passe vraiment dans les meilleures conditions possibles. Quoi.
L'aspect humain,
oui, tout à fait.
Souvent, ouais. Dans les transmissions, le patron qui a été là pendant de longues années reste un peu comme éminence grise. C'est le cas chez vous?
Non, je dirais pas comme éminence grise. Non, justement, il est vraiment, ça se passe vraiment super bien. On a énormément de chance et puis je pense qu'on peut se le dire tous les jours. Quoi.
et toutes les complications administratives, légales, financières, comment vous avez fait pour gérer tout ça?
Ben, disons que ça s'est quand même fait aussi, je dirais, partiellement douceur. Ben, M. Seré nous a quand même accompagnés au début. Il a vraiment bien préparé le terrain. Et puis, ben, Jonas, mon cher associé, est vraiment calé là-dedans. Et puis, je pense que ça fait vraiment, ça porte vraiment ses fruits.
Et vous êtes fait aider sur ces questions-là?
Oui, alors clairement, on a eu la chance d'avoir mon meilleur ami, Pierre, qui nous a vraiment aidé justement à pouvoir créer ce dossier qui était vraiment important, un élément de base pour pouvoir trouver la banque qui allait nous suivre. Et il a vraiment fait ça comme un chef, quoi.
Aujourd'hui, dans vos collaborateurs, il y a des gens qui étaient déjà là quand vous avez commencé il y a 10 ans?
Oui, tout à fait, mais je dirais la grande partie des employés, ils sont toujours là, quoi.
C'est difficile de gagner sa légitimité, de se faire accepter comme nouveau chef avec des gens qui sont plus anciens que nous.
Bah, disons que je dois admettre qu'on a eu beaucoup de chance parce que nos collaborateurs ont vraiment bien accepté la nouvelle transition. Et je peux finalement que les remercier de nous avoir fait confiance depuis le départ, quoi.
Vous l'avez dit, vous dirigez à deux, hein. Il y a donc Jonas Bechat qui est directeur administratif. Vous êtes directeur technique. C'est facile de diriger en séparant comme ça clairement les domaines, ou bien vous touchez forcément les deux un peu à tout?
Alors non, on a vraiment chacun nos domaines. Donc comme vous l'avez dit, direction technique et administrative, c'est pas compliqué. Je pense que c'est même mieux, dans le sens que on fait ce qu'on sait faire. Et par contre, on a toujours un pied chez l'un, un pied chez l'autre, et on échange énormément, ce qui nous permet d'avancer dans la meilleure des façons, quoi.
Il y a un point qui peut toujours être compliqué dans les codirections, c'est en cas de désaccord, qui tranche? Comment vous avez réglé ça?
C'est une très bonne question, on se l'est souvent posé, mais finalement on est deux gars, la tête sur les épaules, et on a les caractères qui permettent de toujours pouvoir discuter, et puis on a énormément de communication entre nous.
Et qu'est-ce que vous avez gardé de votre ancien chef?
L'esprit d'entrepreneur, on va dire ça, c'est-à-dire foncer, y aller, et puis de temps en temps, il faut savoir trancher puis prendre des risques.
Vous avez gardé le nom d'ailleurs, hein, ce RSA, qui n'est pas le vôtre, pour quelle raison?
Ben, ce RSA, c'est avant tout une grande fierté pour nous, c'est un nom qui est connu, et comme je vous avais dit aussi avant, M. Seré, on a vraiment une grande admiration pour lui, puis pour nous c'était important que ce nom perdure encore de très longues années.
Alors on va parler de l'activité de ce RSA. Aujourd'hui, l'entreprise, si vous deviez définir son domaine d'activité, vous diriez quoi?
On est essentiellement basé, je dirais, 80% sur le gros œuvre, donc construction, béton armé, maçonnerie. On fait aussi, maintenant on se lance de plus en plus dans la rénovation, transformation, qui est à mon avis un futur marché. Et sans oublier, petits travaux de génie civil et terrassement jusqu'à la maison familiale.
Il y a eu ces dernières années dans la région un chantier pharaonique, hein, l'autoroute A16, vous y avez participé?
Alors oui, mais je n'étais pas encore dans l'entreprise. Monsieur Seré avait participé, l'entreprise Seré avait participé à des ouvrages d'art, notamment Consortium, et puis La Roche-Saint-Jean, pour ne pas la citer. Et après, c'est un petit peu... pas retiré de l'A16, mais pour diverses raisons, ça pas continué.
On a souvent dit, quand l'A16 sera terminée, ce sera difficile pour les entreprises de construction de retrouver du travail. Vous n'avez pas connu ça, du coup?
Non, alors je pense que ce que M. Seré a toujours été très malin, c'est qu'il a toujours aussi gardé le privé, qui est resté sa force. Et on n'a pas vraiment senti cette diminution de travail.
Il y a donc encore du travail, on va y revenir, et on va même aller voir d'ailleurs maintenant, inspection de chantier, avec Jean-Michel Probst, qui avait deux casques pour l'occasion. Il est avec votre co-directeur, Jonas Bechat, sur un chantier actuel. Il y a une grue, des machines, et surtout des hommes en plein travail.
Sortie de boîte.
Donc là, c'est un chantier, si vous voulez, qui est intéressant, du fait qu'on a réutilisé des matériaux d'excavation. On a repris, on a creusé ces matériaux pour des autres chantiers, mm-hmm. Et puis on a réutilisé ceci avec une certaine, on a lié le matériau avec du ciment puis de la chaux, et puis on a restabilisé le terrain sur chaque niveau, quoi.
Le recyclage, la réutilisation, c'est important.
C'est très important, quoi, parce qu'écologiquement on est quitte de mm-hmm. le remettre en décharge, on a pu le réutiliser ici, quoi. On a pu faire ça parce que le souhait du client. Ben, le terrain, on voit un peu, on ne le voit pas à la radio, mais on le voit, le terrain naturel, il descend fortement ici. Donc là, on a rehaussé de 2 mètres quasi. Et puis tout ce matériel, on a pu le réutiliser, quoi. Il est quitte d'être parti en décharge, quoi. Ouais.
Qu'est-ce qui a principalement évolué ces dernières années dans le monde de la construction?
La rapidité.
Ah oui?
Oui. On en discutait d'ailleurs ce matin. C'est vrai que quand on discute un peu avec les plus vieux du bâtiment, ils disent toujours une maison, on les construisait en une année, quoi. Mm-hmm, on les sécher l'hiver comme il faut, machin. Et puis maintenant, ben, c'est clair que maintenant, c'est les gens, ils ont pris par habitude. Alors ça, c'est un peu la société qui veut ça, mais on n'a même pas encore fini le projet, que les gens nous demandent déjà quand c'est qu'ils rentrent, quoi.
Donc, il y a une espèce d'impatience de pouvoir rentrer dans son nouveau logis.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Mm-hmm. Même, c'est quasi dans le 80% des cas, c'est ça qu'on retrouve.
On n'entre pas trop vite, finalement, dans la maison. Est-ce que ça n'implique pas le fait qu'on pourrait entrer trop vite dans une habitation qui n'est pas tout à fait terminée, sèche, j'allais presque dire?
Alors, c'est clair qu'une maison, maintenant... qui est fini, on demande toujours aux gens d'aérer beaucoup au départ.
Ah ouais.
Ouais. Mais par contre, pour des bétonnages ou bien pour la... Il existe maintenant dans la chimie du béton des bétons qu'on puisse bétonner à des températures relativement basses. Mais en dessous de 0 degré, normalement, on ne doit plus travailler et puis on ne travaille plus d'ailleurs.
C'est un métier où il y a toujours du boulot ou est-ce que...
Bon, moi, je suis dans ce métier-là depuis l'âge de... Ça fait depuis 2000, j'ai fait mon apprentissage en 2000. J'ai jamais eu de période de chômage, je dois dire. Mais par contre, je sais que les années d'avant, années 90, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Mm-hmm. Parce que j'ai des connaissances qui sont dans le métier, qui sont un peu plus âgées, c'était pas évident.
On dit que quand le bâtiment va, tout va.
Il paraît, oui.
Ça reste une réalité.
Mais on dirait, oui, en tout cas, parce que là, ben, l'économie jurassienne, je pense que ça fonctionne bien, quoi, actuellement, quoi. Mais c'est vrai que nous, pour l'instant, on peut pas trop se plaindre du manque de boulot, quoi.
Sortie de boîte.
On vient d'entendre Jonas Beuchat, co-directeur de Soret SA à Courant de l'Ain dans le Jura. L'autre co-directeur est avec nous dans notre studio de Léman. Jérôme Guiziger, on l'a entendu depuis les années 90, pas de période de chômage, il y a du boulot pour l'instant. Comment vous expliquez qu'il y a autant de travail?
Je pense qu'avant toute chose, tout le monde le sait, c'est les taux. Clairement aujourd'hui, ça favorise énormément les gens à construire. On se rend bien compte que si on a les moyens d'avoir les fonds propres, tout le monde va vous dire qu'il faut construire, quoi.
Donc là, ça explose, vous voyez, avec les taux d'intérêt bas, tout le monde construit sa propre habitation.
Ah ouais, c'est assez fou, quoi.
L'abandon du taux plancher, la crise économique, vous ne l'avez pas du tout senti?
Disons qu'avec, j'ai pas non plus 30 ans d'expérience dans la branche, mais c'est vrai que depuis que je suis sur le chantier, je l'ai personnellement jamais ressenti, quoi. Et puis finalement c'est une grande chance. Et puis je pense qu'on va encore un petit peu vivre ça ces prochaines années sans oublier de pouvoir évoluer.
Il y a aussi une nouvelle loi qui entre en vigueur, la loi sur l'aménagement du territoire, la nouvelle LAT qui va limiter les zones à bâtir. Ça, c'est un risque pour vous?
Oui, ça peut l'être, on se rend compte aussi, puis ça peut faire un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y aura moins peut-être de nouvelles constructions. C'est justement là, je pense qu'il faut un petit peu anticiper et puis se reconvertir, entre guillemets.
Vous faites quoi, du coup?
Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, maintenant, on se lance vraiment dans cette transformation, cette rénovation, on pense déjà à l'avenir, le recyclage aussi. C'est quelque chose où on doit vraiment amener ça en avant et puis trouver les solutions pour les meilleures alternatives.
Ouais, au moment où il y a la saturation, la rénovation d'anciens bâtiments, c'est un peu le marché d'avenir selon vous?
Je pense, quoi. Après, je pense que tout le monde va vous le dire. Quoi.
Le recyclage, vous en avez parlé juste avant. On a aussi entendu Jonas Beuchat. Il y a eu beaucoup d'évolutions en la matière. Vous devez faire attention écologiquement à ce que vous faites maintenant.
Oui, alors c'est vraiment, vraiment évolué. Et puis en peu de temps, je dirais, parce que depuis mon apprentissage, on se rend vraiment compte qu'on doit faire vraiment attention avec les déchets, le tri. Avant, c'était vraiment c'était grossier. On faisait un trou, on mettait tout dedans, puis on bouchait. Maintenant, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus contrôlé. Et puis franchement, c'est normal et c'est bien, quoi, j'entends.
Vous êtes actif très régionalement, dans un rayon de 25 km. Pourquoi ne pas viser plus loin?
Disons que c'est finalement aussi, c'est aussi notre force, je dirais, de pouvoir travailler tout à proximité entre les équipes. C'est aussi facile de gérer plus facilement le personnel. J'entends, si on doit déplacer aussi un homme, c'est relativement efficace. Et puis aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir tenir ça. Et puis aussi, c'est aussi une question de respect, je pense aussi, avec les autres entreprises des autres districts.
Fonctionner en bonne intelligence entre concurrents.
On essaye du moins.
C'est aujourd'hui, si on regarde un petit peu le marché, vous êtes votre entreprise, pas le marché, vous êtes une quarantaine d'employés. Vous fonctionnez aussi avec des saisonniers, des temporaires?
Alors on évite un maximum. On essaye vraiment de fidéliser nos collaborateurs, nos employés. Et puis après les intérims, on les utilise, je dirais vraiment quand on a les grosses fortes de travail.
Vous refusez jamais un job?
on n'essaye jamais de le refuser. Franchement, c'est peut-être arrivé une fois. Et puis, comme on dit, ça fait mal d'en arriver là.
Fidéliser les employés, vous avez lâché le mot. Comment on s'y prend ?
Bah, disons que personnellement, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir que chaque employé se sente concerné par l'entreprise, qui sentent vraiment impliqués dans l'entreprise, puis que ça représente quelque chose pour lui. Quoi.
Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Aller les voir, discuter avec eux ?
Alors c'est ça, exactement. Bah, je pense que les trois quarts de ma journée, c'est ça, c'est aller sur les chantiers.
Ah, vous sortez encore beaucoup, donc ?
Ah oui, vraiment, oui. Ouais. Finalement, c'est ce que j'aime, et puis je pense que c'est où je suis bon, je dirais. Ouais. Et puis, ça amène aussi de montrer qu'on est là, aussi de l'échange, aussi d'amener aussi cet échange de communication, et puis je pense que vraiment, ça valorise les employés.
Donc maintenant que vous êtes chef, vous continuez d'être sur le terrain, vous arrivez.
Ben oui, il faut, c'est vraiment très important pour moi, c'est quand même mon job finalement, c'est d'organiser, d'amener aussi mon soutien pour les cas, pour nos cadres, et aussi de pouvoir anticiper un maximum pour aller de l'avant.
On ne souhaite pas du tout ça, mais si un jour le travail venait à baisser, vous devriez vous séparer du monde, ça fait partie des responsabilités lourdes de chef que vous découvrez, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant, mais vous y pensez parfois ?
Tous les jours.
Ah oui, carrément tous les jours.
Ouais, tous les jours, parce que pour moi, j'ai vraiment ce côté humain que j'amène vraiment aussi en avant. J'essaie aussi de montrer que c'est très important chez nous. Alors, je ne vous cache pas que si un jour on doit en arriver là, ça me fera mal. Quoi.
Vous avez eu, au niveau de la formation, un apprenti. Vous en cherchez encore à l'avenir. La filière maçon, c'est une filière qui est toujours attractive aujourd'hui ?
Oui, alors je pense que c'est très attractif. C'est vraiment un métier où il y a plein de possibilités et surtout d'évolution, autant sur le côté pratique ou après se régénérer sur le côté théorique. Donc oui, c'est vraiment un métier vraiment, vraiment chouette.
On trouve facilement des maçons ?
Non, c'est quand même pas facile. Après, vous l'expliquez pourquoi, c'est un peu compliqué. Quoi. Je pense aussi du fait que... Il y a aussi eu cette augmentation aussi de salaire pour essayer de réattirer aussi l'apprentissage. Je ne pense pas que ce soit que positif. Ça a amené plutôt un peu aussi du négatif.
Ah oui ? En quoi ?
On ne sait peut-être pas quoi faire. Puis finalement, ce gros salaire qui tombe à la fin de chaque mois, première année.
Mauvaise motivation.
Après, on soit clair, hein, je ne dis pas que c'est le 60-70%. Mais je ne pense pas que ça n'amène que du positif.
Mais la main-d'œuvre aujourd'hui, elle est essentiellement étrangère.
Clairement, oui. Ouais.
On a une idée du pourcentage chez vous ?
Chez nous, c'est 80% espagnol-portugais.
Comment ça s'explique ? Les Suisses ne sont pas attirés ? Ou alors ils commencent par devenir maçons puis ils font autre chose ?
C'est clairement ça, oui. Alors c'est vrai que j'en suis le cas, j'en suis le parfait exemple. J'ai commencé mon apprentissage de maçon, après j'ai pu suivre comme chef d'équipe et contremaître. Donc après, c'est vrai quand on a aussi ces possibilités-là, mais je tiens aussi à dire qu'on a aussi maintenant aussi beaucoup d'Espagnols qui se forment et qui prennent aussi les voies chef d'équipe et contremaître. Qui est vraiment super. Quoi.
On a entendu tout à l'heure Jonas Beuchat nous dire que le métier avait beaucoup changé au niveau de la rapidité. Il y a quelque chose qui a beaucoup évolué aussi, c'est la sécurité, les normes qui se sont multipliées. C'est une bonne chose ou il y en a trop ?
Après, il faut savoir faire la part des choses. Je pense qu'on essaye d'amener, de vraiment faire le maximum. Après, il faut être clair, quand on est sur le chantier, on ne fait pas tout juste, personne ne fait tout juste, mais on essaie vraiment de rendre attentifs nos employés là-dessus, car on sait que l'accident, c'est vraiment
ouais, bon. Quoi. Il y en a régulièrement ?
Alors non, je pense qu'on touche du bois, on a très peu d'accidents, mais je pense que ça part du fait qu'on a aussi des chefs qui sont vraiment bien qualifiés et puis des employés qui sont vraiment responsables.
La mentalité a changé en 10 ans sur les chantiers ?
Oui, elle a vraiment changé. Avant, pour se faire entendre, il fallait, comme on dit en bon français, gueuler. Je pense que maintenant, il faut juste communiquer, échanger, parler quand il y a des problèmes, surtout pas garder ça pour soi. Et puis, j'ai toujours dit que la communication n'amène que du positif.
Est-ce qu'on peut dire que ça s'est professionnalisé ? Il y avait un côté avant un peu plus démonstratif, on soulève beaucoup de choses, aujourd'hui on fait un peu plus attention.
C'est clair, avant c'était le concours, il fallait mettre 3 sacs de ciment sur le dos de 50 kilos, puis à la fin de la journée on faisait les comptes. Non, mais non, c'est vrai que ça a vraiment changé la mentalité, on doit faire aussi attention au personnel, et puis les gens sont aussi responsabilisés à ça, mais je pense qu'on peut travailler tout aussi vite avec intelligence.
Et puis le marché, au-delà de la pression sur les délais, aujourd'hui est-ce qu'il y a une pression qui est plus forte sur les prix qu'elle pouvait l'être à l'époque ?
Là aussi, c'est encore un peu difficile. De ce que je peux entendre, oui, puis on le ressent aussi petit à petit. Le marché se resserre un peu. Après, il faut essayer de trouver les meilleures solutions pour être le plus compétitif. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, on y arrive. Après, bah, il faut suivre et puis assumer ça jusqu'au bout, quoi.
Tout évolue, le temps, lui, reste, il passe, mais il ne tourne pas forcément toujours de la même manière. La preuve dans notre traditionnelle chronique horlogère, celle de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Dans l'horlogerie, comme dans une vie de couple, il faut parfois savoir casser la routine. Sûrement ce que se sont dit les concepteurs de la marque Clockers. La lecture de l'heure avec des aiguilles ou des chiffres est devenue la norme universelle, mais Clockers a pensé les choses autrement. Pour faire les présentations, Clockers, c'est une marque dont les créateurs sont basés en France, à Annecy-le-Vieux.
Chez la dame de Haute-Savoie.
Exactement, Francis, en Haute-Savoie. Mais les montres Clockers sont Swiss made, eh oui. Le concept n'a pas mis longtemps à séduire le public. Lors de son lancement sur une plateforme de financement participatif, il n'a fallu que 2 heures pour réunir 230 000 francs. Et en 3 jours, près de 347 000 francs ont été collectés.
L'argent doit circuler, circuler de tous côtés, circuler, circuler pour prospérer.
Les cofondateurs de Clockers sont Richard Piras et Nicolas Boutrin. Leur idée, c'était de réhabiliter la montre Gousset. La montre à quartz qu'ils ont créée est munie d'un système qui permet de détacher le boîtier du bracelet en un clin d'œil, en appuyant sur un bouton. Du coup, on peut changer de bracelet quand on veut.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets.
2 ans de recherche et de développement ont été nécessaires pour mettre au point le premier modèle. Mais la véritable innovation réside dans la façon d'afficher l'heure et donc de la lire. Pas facile de vous expliquer ça sans avoir la montre sous les yeux, mais je vais tenter de relever le défi. Oui, merci pour les encouragements. Alors, habituellement, sur une montre, il y a des aiguilles qui tournent. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un indicateur fixe placé à midi et c'est le cadran divisé en 3 parties qui tourne. En plus, il tourne dans le sens contraire de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, le cercle extérieur qui porte des chiffres indique les heures, le cercle du milieu indique les minutes et celui du centre, les secondes. Le repère fixe qui permet d'indiquer l'heure, c'est un axe vertical de couleur. Ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Il est inspiré d'un instrument de mesure ancien, la règle à calcul.
2 et 2, 4, 4 et 4, 8.
Le modèle de base avec cet indicateur règle à calcul coûte 460 francs avec un bracelet simple. La marque va bientôt le décliner dans un nouveau modèle, ce sera le troisième. Le deuxième, lui, comporte un autre système d'affichage. Pour cette montre à quartz, toujours comptez 980 francs.
Pile à l'heure.
Pile à l'heure pour se dire au revoir, Jérôme Guiziguer, co-directeur de Soréessa, entreprise de construction. Vous êtes actif dans le canton du Jura, à Courandelin. Merci d'être venu nous parler de vos activités, de la transmission d'entreprise dans cette émission. Vous imaginez rester là toute votre vie maintenant ?
Clairement.
Ouais, la retraite chez Soréessa.
La retraite chez Soréessa jusqu'au bout.
Et un jour, arriver sur un chantier, croiser un jeune apprenti que vous avez connu il y a plusieurs années, lui dire « Puis toi, tu veux reprendre ?»
Clairement, je l'espère vraiment du fond du cœur.
Que ça se passe comme ça. Bon, on vous le souhaite. Très bonne soirée à vous, merci.
Merci, bonne soirée à vous aussi, merci bien.
La semaine prochaine, nous resterons un peu dans le domaine de la construction, mais en bois, et uniquement en bois. L'entreprise Schwab System est spécialisée dans les ossatures bois, dans la fabrication d'auditoires également. On en parlera avec 2 jeunes qui, eux aussi, viennent de reprendre l'entreprise familiale. Leïla et Marcom Schwab seront nos invités sur RJB et RTN, pardon, parce que sur RFJ, vous pourrez entendre le débat pour les au conseil communal de Delémont. Mais vous pourrez évidemment réécouter cette émission sur notre site internet comme celle qu'on termine maintenant. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.
Sortie de boîte.